Radio Okapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molima.
Renforcer l'accès à l'autonomisation financière des femmes en Afrique. Une série de conférences à ce sujet s'est ouverte ce mardi ici à Kinshasa, organisée par la BAD, à Banque Africaine de Développement. Le numéro 2 de la MONUSCO, Kassim Diagne, réaffirme l'engagement de la mission onusienne à soutenir les efforts visant l'instauration de la paix pendant le temps qui reste à la MONUSCO en RDC. Enfin, nous recevons dans ce journal Paul Safou Moukoulou, vice-président de la FIDH et président de la Ligue des électeurs. Il nous parlera des attentes des défenseurs des droits de l'homme concernant l'amélioration de leur situation en période pré- et post-électorale en RDC. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Sachez tout d'abord que Vidi Etchimanga, ancien conseiller stratégique du président de la République, a recouvré la liberté provisoire depuis hier mardi vers 17h. Il a quitté la prison centrale de Makala où il était détenu depuis le 21 septembre. Mais selon le parquet, il va continuer de comparaître en étant libre au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe qui poursuit son instruction sur la tentative de corruption et de trafic d'influence fait se rapportant à ses conversations filmées avec de supposés investisseurs dans le secteur minier. La Banque africaine de développement BAD, en collaboration avec l'Association des banquiers du Congo ainsi que le ministère des Finances, a ouvert depuis hier mardi 27 septembre une série de conférences qui vont se clôturer vendredi 29 septembre à l'hôtel Pullman ici à Kinshasa. Objectif, renforcer l'accès à l'autonomisation financière des femmes en Afrique. Cette initiative panafricaine vise entre autres à combler les déficits financiers des femmes du continent estimés à 42 milliards de dollars américains. Un reportage signé Kelly Oka.
Les femmes entrepreneurs de Kinshasa et de la diaspora ont répondu présentes lors de l'ouverture de la deuxième édition de AFWA, Affirmative Finance Action for Women Entrepreneurs in Africa. Une occasion d'échanger avec le gouvernement congolais sur les défis des petites et moyennes entreprises initiées et gérées par les femmes du continent. Le ministre des Finances a à cet effet salué cette initiative qui, selon lui, s'inscrit dans la promotion du genre que s'est assigné le gouvernement. Nicolas Kazadi.
Ces efforts s'inscrivent dans les objectifs en matière de promotion du genre et de l'autonomisation des femmes que s'est assigné le gouvernement, notamment assurer une meilleure représentation des femmes au sein des instances dirigeantes des entreprises et institutions publiques.
Gisèle Valnouk, une jeune femme d'affaires, dit avoir apprécié cette sensibilisation à l'autonomisation de la femme.
Parce que pour moi, en RDC, il y a plusieurs femmes entrepreneurs qui font des merveilleuses choses, qui ont des projets magnifiques, mais seulement qui n'ont pas l'accompagnement qu'il faut.
Pour sa part, Willy Mulumba, président national des banques commerciales du Congo, a promis un accompagnement des institutions bancaires de la RDC au profit des initiatives portées par des femmes entrepreneurs.
La RDC dispose d'innombrables ressources minières et pétrolières qui sont exploitées par les étrangers sans pouvoir bénéficier à la jeunesse congolaise. C'est le secrétaire général du Club national des sous-traitants qui l'a dit. Cette organisation s'engage à faire suivre l'application stricte du code minier afin de concourir à la réduction de la pauvreté et à la création d'une classe moyenne dans le pays. Dans une interview hier mardi à Radio Okapi, en marge de la première conférence sur la sous-traitance qui sera célébrée le 13 octobre prochain, le secrétaire général du Club national des sous-traitants invite les autorités congolaises à accompagner cette organisation sans but lucratif afin de faire bénéficier aux Congolais les dividendes des richesses minières et pétrolières du pays. Patrick Kassenda est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous sommes un club qui a pour but de faire suivre l'application d'abord stricte du code minier. Et nous sommes là pour d'abord faire expliquer le concept de la sous-traitance. Si plusieurs Congolais ont accès à leurs propres ressources, ils auront bien évidemment de l'emploi qui sera créé. La classe moyenne ne sera plus la même chose. Nous avons vu ça en Zambie. Aujourd'hui, les Zambiens ont une classe bien assise parce que ils ont eu cette bonne application et soutenue par leur gouvernement. Et c'est pourquoi nous aussi, de notre côté, nous avons l'ARSP et le ministère de PME qui sont nos partenaires. Le but principal, c'est celui de réduire la pauvreté. Et nous avons les compétences de le faire. faire. Mais aussi, la réduction de la pauvreté dans ce secteur-là est inévitable. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, que l'accès aux ressources de la sous-traitance mettant 20%, 30%, il y aura déjà bien évidemment beaucoup d'emplois qui sont créés.
Et puis, cette bonne nouvelle pour la population habitant l'espace Grand Kasaï. Dans un mois, un lot d'une vingtaine de bus Transco sera déployé dans cette partie du pays pour assurer les transports en commun. C'est le directeur général de l'entreprise Transport du Congo Transco qui l'annonce. Selon Chipamba Ngamba Malou, une équipe d'experts de Transco est déjà sur place dans les trois provinces, à savoir le Kasaï central et le Kasaï oriental, pour l'étude du millet et la formation des chauffeurs, régulateurs et autres percepteurs. Le directeur général de Transco a été joint par Priscille Kabouya.
Il y a une équipe qui est en route pour Mbujimayi, après Tikapa, pour apprécier l'état de la voirie avant d'envoyer le véhicule. Nous sommes en train de conquérir l'espace Kasaï. J'ai reçu le gouverneur de Kasaï oriental, j'ai reçu le vice-gouverneur du Kasaï central et j'étais en contact avec les autorités de la province du Kasaï, avec une équipe d'experts pour voir l'état de la voirie. Et encore, l'équipe qui est partie à Tikapa va prolonger sur la route Kananga et puis Mbujimayi. C'est de leur rapport que nous allons préciser les itinéraires pour emmener les bus là-bas. C'est l'état de la voirie entre ces trois provinces qui va déterminer l'opportunité de faire une ligne directe. Si cela le permet, nous aurons des bus qui vont quitter ici jusqu'à Tikapa et Tikapa peut prendre le relais jusqu'à Kananga, Kananga juste de l'autre côté. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'urbain déjà, ça sera opérationnel. Et ceux qui sont en route en train de voir vont nous dire aussi que cela permettrait à ce que l'on fasse une ligne directe Kinshasa-Kasaï. Oui, c'est un lot de 20 bus.
Notre détermination ce jour, pour le temps qui nous reste, est de redoubler plus d'efforts pour accompagner le gouvernement congolais à éradiquer complètement les groupes armés qui pullulent en Ituri. Cette déclaration est du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, chargé de la protection et des opérations. Kassim Diagne s'est ainsi exprimé hier mardi à Bounia, en Ituri, après un échange avec le comité provincial de sécurité. Le numéro 2 de la MONUSCO salue les efforts des autorités provinciales dans l'amélioration de la sécurité dans cette province, avec surtout la signature des actes de cessation des hostilités par quelques groupes armés locaux. Il a également encouragé ses hôtes pour les opérations militaires contre les forces négatives sur l'axe commanda Loloa Mambasa. Il réitère enfin l'apport de la mission onusienne au processus de paix en cours et des DDRCS. Kassim Diagne est au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Notre détermination est intacte sur ce niveau-là. Je peux vous assurer qu'en tout cas, pour le temps qu'il nous reste et qui sera défini par l'autorité nationale, nous allons redoubler nos efforts en ce sens-là. Et c'est une frustration qu'on comprend. Évidemment, c'est pas de gaieté de cœur que nous voyons tous ces problèmes dans les territoires qui sont sous la menace de ces bandes armées. L'accompagnement, en tout cas, de la MONUSCO est total. Il y a encore des zones extrêmement difficiles, par exemple sur l'axe commanda Loloa, sur l'axe Mongalou, les zones de Kobu, etc. Et nous avons reconnu qu'il faudrait peut-être appesantir nos efforts et redoubler nos efforts dans ces zones-là. Évidemment, c'est des plans qui prennent du temps à matérialiser. Nous avons témoigné à l'autorité provinciale que la MONUSCO reste disposée et entièrement engagé à accompagner les efforts du gouverneur.
Et puis en plus bref, l'ancien président français François Hollande plaide pour la fin des ingérences et une force des Nations Unies plus efficace pour amener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo en proie à l'insécurité. Le Congo est un pays souverain, indépendant, démocratique qui doit régler par lui-même les affaires qui le concernent, y compris ces guérillas qui viennent troubler la vie des populations, a-t-il affirmé, se confiant à l'AFP. En visite en République démocratique du Congo avec sa femme Julie Gayette, l'ancien président a visité hier mardi le musée national à Kinshasa. Ce mercredi, le couple Hollande est à Bukavu, au sud Kivu, pour assister à l'inauguration d'un nouveau service de l'hôpital Panzi du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Et puis les conflits communautaires dans les provinces issues du démembrement de l'ex-Bandundu portent visiblement une main noire. Pour y mettre un terme, cela nécessite l'implication de l'ensemble du peuple congolais ainsi que de tous les services de sécurité, plus particulièrement l'armée et la police nationale. C'est ce qu'affirme le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Daniel Asselo, qui l'a dit à l'issue d'une importante réunion que le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé le lundi à la primature. Outre celui de l'intérieur, cette rencontre a connu connu la participation des ministres de la Justice, de la Défense, des Finances, des Droits humains, des Affaires sociales, du vice-ministre du Budget, du gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que des services de sécurité et de renseignement. À l'ordre du jour, évaluation de la situation sécuritaire qui prévaut dans le Maïndombe, Kwilu et Kwango. Suivez Daniel Asselo, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, dans cet extrait que nous propose Daniel Tambizoni.
Ces conflits communautaires, mais qui visiblement porte une main noire sur lui, doit être combattu par l'ensemble de notre peuple et par les services de sécurité et de renseignement plus particulièrement. Il y a l'armée, il y a la police qui sont mises en œuvre au jour d'aujourd'hui dans la province de Maïndombe, plus particulièrement dans le territoire de Kwamout. Et sur la route nationale numéro 17, où les insurgés se retrouvent encore dans des forêts, dans des savanes, en train de continuer à commettre des actes ignobles. Ainsi, nous encourageons notre peuple à se lever et à participer activement en ce qu'il doit dénoncer ces infiltrés et ces inciviques congolais qui se permettent de commettre des actes de déstabilisation de notre pays jusqu'à ce jour.
Et puis, l'armée a annoncé hier le lancement des opérations militaires dans le territoire de Kwamout, au Maïndombe, notamment sur la route nationale numéro 17, dans son tronçon compris entre les villages Kambankou et Massiambio. Par conséquent, elle demande à toute personne qui habite encore dans de petites fermes se trouvant dans cette contrée et qui n'est pas de mèche avec des assaillants de quitter ce milieu et de se rendre là où se trouve la population. Le chargé des opérations militaires de la 11e région militaire garnison de Kikwit au Kwilu, le colonel Moïse Jean-Baptiste, qui le dit, précise que toute personne qui serait trouvée dans la forêt ou dans ses fermes sera attaquée en tant qu'ennemi de la paix. Par ailleurs, il invite la population à ne pas paniquer, mais à dénoncer les agresseurs. On écoute le colonel Moïndo Jean-Baptiste.
Le message que je vais lancer à la population, surtout la population de Kwamout, est que toute personne qui n'est pas à mèche avec les bandits, qu'ils quittent toutes les fermes, parce que les bandits sont dissimulés dans des différentes fermes. Alors, nous voulons lancer des opérations, il faut que toute personne qui n'est pas à mèche avec ces bandits, qu'ils quittent. Quand nous allons lancer des opérations, c'est lui que nous allons rencontrer avec ces bandits, nous allons l'attaquer comme tel. Donc, demain après demain, on lance des opérations. C'est-à-dire quoi? Ceux qui sont avec les bandits, qui se déplacent là où il n'y a pas de bandits, parce que ces bandits-là sont confondus avec la population. On ne sait pas qui est avec l'arme, qui n'a pas avec l'arme. Alors, c'est lui qui sait qu'il n'est pas à convivance avec ces bandits-là, qu'il quitte, qu'il vienne là où il y a la population. S'il y a un bandit-là, qu'il voit un bandit-là, il doit dénicher. Il dit non, je suis avec un bandit-là, je ne connais là où il est venu, il déniche les bandits. Donc, nous voulons lancer des opérations dans R17, à Kwamout. Donc, trosso, Kabangou, tu vois Kabangou jusqu'à Machambio. Dans ce trosso-là, tous ceux qui sont là avec les bandits-là, il faut quitter. Parce que tous ces bandits-là sont à tenue civile. La population, quand ils voient la tenue militaire, t'as dit qu'ils viennent les sauver. Qu'ils n'y aient pas peur.
Et puis, repenser le tourisme, c'est le thème de la journée internationale du tourisme célébrée hier mardi 27 septembre. Au Nord Kivu, ce thème pourrait se traduire en relancer le tourisme en province, selon le vœu exprimé par les acteurs touristiques dans cette province. Car depuis plusieurs mois, maintenant, les activités touristiques sont suspendu dans le parc national de Virunga, notamment à cause de l'insécurité. À l'occasion de cette journée, les acteurs du domaine plaident donc pour le retour de la paix afin que la province puisse bénéficier à nouveau des avantages du tourisme. Cet élément de Goma est rendu ici par Grâce Amzati.
Le Nord qui vous regorge d'un riche potentiel touristique, mais avec une réputation négative à cause de l'insécurité. Le parc national de Virunga avec sa biodiversité, l'actif volcan Iragongo, le territoire de Masisi avec des paysages à couper le souffle, le mont Rwenzori à Beni avec sa neige permanente, tous ces sites et bien d'autres ne peuvent plus être visités et ce sont des millions de dollars en perte. Ce que déplore Alain Mukiranya, acteur touristique au sein de l'organisation Gorilla Ambassadors.
Actuellement, pour convaincre d'abord un touriste à venir au Congo, c'est compliqué. C'est le message qui est véhiculé, que c'est une zone rouge. Et ceux qui comptaient venir, ils ne viennent plus parce qu'ils sont informés qu'il y a l'insécurité et que c'est une zone dangereuse. Nous demandons que la sécurité, la paix revienne dans la région. Vous savez, ça fait plus d'une année que le tourisme est fermé au parc national de Virunga. Et cela constitue un manque à gagner tant pour l'État ainsi que pour la communauté locale parce qu'il y a des revenus que tous ont gagnés. Mais depuis que le tourisme est fermé, cela n'est plus le cas.
Repenser le tourisme, c'est le thème international de cette journée. mais repenser carrément toute la situation sécuritaire du Nord Kivu afin de relancer cette activité en province. Voilà la principale demande des acteurs du secteur du tourisme au Nord Kivu.
Et puis, en plus bref, le ministre de la Santé publique, le docteur Jean-Jacques Mbungani, déclare la fin de la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Beni, au Nord Kivu. Il a fait hier mardi dans un message partagé sur les plateformes numériques du ministère de la Santé. Cette résurgence de la maladie à virus Ebola dans la ville de Beni a été notifiée depuis le 16 août. Cette épidémie, la 15e en RDC et la 4e au Nord Kivu, est survenue seulement 8 mois après la précédente dans la même contrée à il rappelait l'unique victime, une femme de 46 ans, est décédée du virus Ebola.
Actualité internationale.
L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est à Paris pour des examens médicaux. Poursuivi par la justice mauritanienne, il est accusé d'enrichissement illicite, RSL et blanchiment d'argent au cours de ses 10 années au pouvoir. Mais le délai de sa détention provisoire expiré, l'ancien président a recouvré la liberté au début du mois et récupéré ses passeports.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est Paul Safou Moukoulou, vice-président de la FIDH et président de la Ligue des électeurs. Il nous parle des attentes des défenseurs des droits de l'homme concernant l'amélioration de leur situation en période pré- et post-électorale en RDC. Il s'entretient ici avec Jeff Ngoy. Suivez.
Paul Safou, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'agenda global de la 51e session du Conseil des droits de l'homme en cours à Genève, plus particulièrement sur la RDC?
Cette session examine beaucoup de dossiers très sensibles politiquement et sur le plan des droits de l'homme. Il s'agit de situations et pour la région de Grand Lac qui nous concerne, il y a la RDC, le Burundi et l'Éthiopie. Concernant la RDC, on a discuté, on a échangé par rapport à la situation des droits de l'homme en général au pays, par rapport à la situation de l'Est avec l'insécurité qu'il y a à l'Est du pays et les groupes armés qui écument le coin. On a échangé sur des questions qui concernent mieux les mécanismes de lutte contre l'impunité, la corruption et on a également parlé de la question de la justice ainsi que d'autres services importants qui concernent la sécurité et l'ordre dans notre pays et également les difficultés de l'armée congolaise. Les élections, les partenaires voulaient s'enquérir sur ce que pense la société civile sur toutes ces questions-là.
À quelle conclusion sont parvenues les discussions de la journée du 26 septembre consacrée à la situation des droits de l'homme en RDC?
Alors, les négociations au niveau des différents groupes qui vont se concerter pour produire une résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Nous souhaitons voir dans le texte qui sera produit en termes de résolution de la 51e session des recommandations qui touchent aux problèmes que nous avons évoqués avec les différentes missions.
Une assistance technique est attendue du CDH. En quoi devra-t-elle se traduire et comment est-elle échelonnée?
Nous voulons par exemple qu'on puisse veiller à ce que le retrait de la MONUSCO soit un retrait progressif et échelonné. Que cela soit accompagné du renforcement des capacités du bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, pour que ces derniers puissent poursuivre les travaux de documentation des violations des droits humains sur l'ensemble du territoire national, puissent aussi également s'impliquer aux côtés des organisations de la société civile en tant qu'observateurs de la période préélectorale. Nous souhaitons également, par exemple, que ce texte de résolution puisse mentionner l'appui que l'on doit apporter au gouvernement dans la formation des forces de protection en RDC, dont l'armée, la police, en matière de respect des droits humains, que dans ce texte, on puisse aussi encourager les autorités congolaises à poursuivre leurs efforts en matière de justice transitionnelle, y compris en matière de lutte contre l'impunité, notamment pour juger les plus hauts responsables dans beaucoup de procès, même le procès Chebeya Bazana. Il y a encore du travail à faire faire là-dessus, mais surtout des cas qui visent les défenseurs des droits humains et des journalistes. Pour cela, on devrait absolument, tout au long de la session parlementaire actuelle, que le Parlement puisse produire la loi pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Les textes sont là.
Comment améliorer la situation des droits de l'homme en période préélectorale, électorale et postélectorale en RDC?
Eh bien, c'est en prenant en compte et en appliquant toutes ces recommandations et d'autres que nous n'avons pas citées ici, qui sont pertinentes pour nous de la société civile. Concernant l'amélioration de la situation des droits de l'homme en période préélectorale, électorale et postélectorale, il faut d'abord que toutes ces recommandations qui touchent des pans importants de la vie sociopolitique de notre pays soient prises en compte et que de façon spécifique, l'on puisse permettre à la société civile de pouvoir participer comme partie prenante à ces processus électoraux pilotés par la CENI.
Je vous remercie.
Merci.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Jean-Noël Mokondo, coordonnée et supervisée par Pélé Kipelamondo. Merci de nous avoir suivis.